Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, les forces conjointes FARDC armées ougandaises se sont engagées à intensifier les opérations de traque des rebelles des ADF dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 dans les territoires d'Irumu en Ituri. C'est après le meurtre il y a 5 jours des 37 écoliers du lycée Mpondoué dans la région de Bouéra par ce groupe armé. À Kalemie, grogne d'une partie de la population sur la hausse depuis le mois de mai de la consommation de l'énergie électrique de la SNEL. Le chef de centre à Kalemie dit que cette nouvelle grille tarifaire est consécutive au taux directeur de la Banque centrale du Congo qui est annoncé. L'invité de ce journal est le chargé de la coopération du CICR Sud Kivu et Maniema. Théo Bélessi parle de l'appui de la Croix-Rouge en collaboration avec le CICR dans la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. Il est 15h à Kinshasa, 16h à Beni, au Nord Kivu. Les forces conjointes FARDC armées ougandaises se sont engagées à intensifier les opérations de traque des rebelles des ADF dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 dans les territoires d'Irumu en Ituri. C'est après le meurtre par ce groupe armé il y a 5 jours des 37 écoliers du lycée Mpondoué dans la région de Bouéra en Ouganda. Cette décision prise de commun accord avec les autorités congolaises est contenue dans un communiqué de presse du président ougandais Yoweri Museveni publié le 18 juin dernier. Martial Kizabiamungu résume le contenu de cette correspondance.
Dans ce document de 3 pages, le président ougandais revient sur les succès, selon lui, de l'opération Shuja qui se déroule conjointement entre son armée et le FARDC dans les territoires d'Irumu en Ituri et de Beni dans le Nord Kivu. Yoweri Museveni cite par exemple l'élimination de quelques leaders rebelles des ADF et le démantèlement de plusieurs bastions dans la forêt de Zunguluka et de Mwalika. Il ajoute qu'avant l'opération Shuja, toutes les zones ouest et sud de la montagne de Rwenzori, côté congolais, étaient plus ou moins contrôlés par les ADF où ils exploitaient des minerais et cultivaient des cacao. Le président Yoweri Museveni déplore les massacres des 37 écoliers du lycée Pondoué dans les districts de Kasese par des ADF à provenance de la forêt frontalière entre la RDC avec son pays. Pour faire face à cette menace commune, il affirme que le gouvernement congolais a autorisé à l'armée ougandaise à élargir sa zone d'action à l'ouest de la route nationale numéro 4. Le chef de l'État ougandais déplore le manque de vigilance et certaines faillances sécuritaires en RDC et en Ouganda après les tueries et par des ADF des élèves à Bouira, village frontalière avec la RDC. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, une importante quantité de douille a été découverte le week-end dernier dans la commune Katuba à Lubumbashi. D'après le ministre provincial de l'Intérieur, l'issue de l'enquête qui est menée par les services habilités permettra d'en savoir plus sur cette affaire qui défrait la chronique dans la ville. En attendant, il demande à la population de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous les hors-la-loi qui vivent dans la communauté. On écoute à ce sujet Eric Mutandala, ministre provincial de l'Intérieur dans le Haut-Katanga, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Moi, je pense que cela est lié au travail qui est en train d'abattre notre armée, notre police et nos services de sécurité, entre autres la communauté des renseignements. Pour dire, avec le bouclage mené, il n'y a pas longtemps qu'on a retrouvé une quantité de machettes. Qu'est-ce qui ne dit pas que cela est lié au bouclage et que les personnes mal intentionnées ont anticipé et ont su qu'il y a des bouclages à répétition dans différents coins et zones criminogènes que nous avons ciblés. Voilà que aujourd'hui, ils commencent d'eux-mêmes à se débarrasser des armes, les douilles, les machettes. Pour ce qui concerne les sacs de douilles ramassés, tout a commencé avec un motard qui aurait aperçu un véhicule jeter ces 2 sacs. Le motard a couru vers la police pour alerter, croyant que c'était les sacs contenant un corps sans vie. Quand la police est arrivée, ils ont découvert que c'était des douilles, des balles, je crois, de AK-47. Et pour l'instant, les services compétents sont en train de mener des enquêtes et l'issue déterminera les responsabilités. Nous appelons la population à être vigilante et à dénoncer tous les hors-la-loi. L'histoire d'insécurité, c'est une histoire de tous.
Justice, la haute cour militaire envoie vendredi prochain l'affaire du député Edouard Mwangatutu pour raison de santé. Principal prévenu dans le dossier qui l'oppose au ministère public, l'ancien patron de la société minière de Bisunzu SMB n'a pas pu se présenter à l'audience publique hier mardi à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. D'après les juges, il a été admis au sein au dispensaire de la prison. Mais la cour a fait comparaître les renseignants pour se déclarer suffisamment éclairé par leur déposition. Des détails avec Jeff Ngoy.
L'audience du 20 juin devait être consacrée à l'examen des cartes USB trouvées dans le coffre-fort du prévenu et devait aussi porter sur le rapport de test COVID-19 de l'UNRB et déclencher l'instruction de la détention d'armes et munitions de guerre chez le prévenu. Mais la santé de ce dernier, qui dit souffrir des palpitations et autres pathologies, n'a pas permis au juge d'instruire. Précédemment, le ministère public a requis que soit poursuivi le chef de la police du Nord Kivu qui l'accuse de négligence dans l'accomplissement de leur mission de mensonge. Selon l'auditeur militaire, les policiers de l'escadron police des mines et hydrocarbures basés à Bibatama sur le site minier de la SMB étaient des policiers irréguliers et constituaient une réserve du M23 en complicité avec les officier supérieur de la police. Accusation rejetée par les renseignants. Mais la cour a rappelé aux parties au procès le principe selon lequel un renseignant ne peut être transformé en accusé que si ces renseignements induisent sciemment la cour en erreur. Et elle n'a pas jugé que tel fut le cas. À la prochaine audience, si la santé du prévenu s'améliorait, l'on pourrait donc découvrir ce que cachent ces cartes USB.
La réforme du statut des magistrats au cœur du débat à Zongo entre députés, sénateurs, conseil supérieur de la magistrature, ministère de la justice et la société civile. C'est alors que les parlementaires plaident pour que le mode de recrutement des magistrats et leur régime disciplinaire soient réformés. Les magistrats s'opposent à toute tentative de saper leur indépendance au profit du ministère de la justice. Les détails avec Michel Kifindangoy.
Au regard de la situation actuelle et des dérapages enregistrés dans le secteur judiciaire, il y a nécessité d'amorcer des réformes du statut des magistrats, soutient le député national Gary Sakata.
Et cette réforme doit commencer par les règles relatives à l'accès à la fonction ou à la profession, et ça doit passer par l'exercice même de la profession. Nous devons renforcer les régimes disciplinaires. La discipline des pairs n'a pas payé. Nous devons donc modifier les modalités des sanctions à l'encontre des magistrats véreux et indisciplinés.
De leur côté, les délégués du Conseil supérieur de la magistrature jugent inopportune cette réforme amorcée au Sénat. Issofa Nkanga, président du syndicat autonome des magistrats.
Aujourd'hui, c'est la seule institution qui, depuis 2006, n'est pas totalement installée. Alors que l'exécutif l'est déjà, le Parlement l'est déjà, mais le pouvoir judiciaire ne l'est toujours pas. On va réformer quoi ? Réformer une structure qui n'est pas totalement mise en place. Donc je crois qu'on commence d'abord par mettre cette structure en place. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est inopportun.
Les magistrats s'opposent à toute réforme visant à donner au ministre de la Justice un pouvoir de contrôle sur les magistrats de parquet, ce qui, selon eux, violerait l'indépendance du pouvoir judiciaire consacré par la Constitution de 2006. Ils plaident plutôt pour la dotation des moyens conséquents pour le fonctionnement de cette institution.
À Calémie, grogne d'une partie de la population sur la hausse de consommation de l'énergie électrique de la SNEL. Depuis le mois de mai dernier, la population a été surprise de constater la majoration de la facture de la consommation du courant électrique. Pour le chef de centre de la SNEL à Calémie, cette nouvelle grille tarifaire est consécutive au taux directeur de la Banque centrale du Congo qui est en hausse. Explication, Paul Mounanga.
Vendredi dernier, un groupe d'habitants de Calémie s'est rendu au bureau du commissaire général de l'énergie du gouvernement du Tanganyika. Objectif, dénoncer la révision à la hausse de la facture de consommation de l'énergie électrique de la SNEL. L'un d'eux s'exprime, Nathan Mugisho.
En calculant les taux par rapport aux factures précédentes, on retrouve bien que si la facture devait monter, elle ne monterait même pas de 500 francs. Mais la SNEL, par sa mauvaise foi, elle vient de surfacturer en ajoutant de 3000 à 4000 sur toutes les facturations.
Dans une conférence de presse tenue ce mardi à Calémie, le chef des centres de la SNEL souligne que cette hausse de la facture de consommation est un ajustement qui est fait suivant les taux directeurs de la Banque centrale du Congo. Jules Kiouya.
Concernant la facturation du mois de juin et de mai, vous réalisez qu'au mois de mai, le taux directeur de la Banque centrale pour un dollar était de 2344, alors que pour le mois de juin, le taux directeur de la Banque centrale auquel on vient de facturer et de 2406. Voilà déjà le premier élément indicateur qui fait la différence vers la hausse.
Le chef des centres de la SNEL Academy indique que cette nouvelle grille tarifaire fixée par le gouvernement central concerne tous les abonnés de la SNEL sur toute l'étendue du pays. Calémie, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et puis cette bonne nouvelle, pour la première fois, la province du Maniema a validé hier mardi le plan provincial des ressources humaines de la santé 2023-2030. C'était à l'issue de la réunion des comités de pilotage provincial extraordinaire tenue dans la salle de l'OMS Kindu. Les participants à ces assises ont profité aussi pour valider l'annuaire des statistiques des ressources humaines de la santé 2023. 7785 agents qui travaillent dans le secteur de la santé dans la province du Maniema ont été identifiés. Le ministre provincial de la Santé, Kibungi Mutanga Junior, explique l'importance de ce plan au micro de Florence Kizalunga.
Ce plan de développement des ressources humaines va permettre à la province du Maniema d'être dotée de personnels compétents, performants, motivés et équitablement répartis pour une offre de services, de soins de qualité en vue de la réalisation de la vision du chef de l'État qui est la couverture santé universelle pour permettre à tout et chacun d'accéder aux soins de qualité partout où il se trouve. C'est-à-dire ici, nous avons épinglé les problèmes prioritaires qui rongent le secteur de la santé dans la province du Maniema en matière de ressources humaines et cela nous a permis de fixer certains objectifs tels que de respecter les règles réglementaires en gestion des ressources humaines fixées par l'État congolais dans la province. Nous sommes fixés l'objectif de régulariser les recrutements des agents des carrières de santé. Nous nous sommes fixés l'objectif d'animer différentes missions de plaidoyer auprès des décideurs en fait que les taux des salariés, les taux des personnels avec primes soient aussi améliorés au niveau de la province.
À Goma, le centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu a besoin d'un bâtiment pour agrandir la capacité de son laboratoire de la banque de sang. Ceci afin de produire du sang de qualité et en quantité suffisante pour desservir plusieurs zones de santé. La coordinatrice du dit centre l'a fait savoir lundi dernier au gouverneur militaire qui a visité les installations abritant les CPTS Nord Kivu. Écoutez à ce sujet le docteur Liliane Bouizavoumilia au micro de Bernardine Diambou.
Le centre de transfusion sanguine de Goma a été construit en 2007 pour desservir les besoins en sang des deux zones de santé urbaines, Goma et Karisimbi. À ce jour, il se trouve débordé du fait qu'il est appelé à couvrir le besoin des 8 zones de santé de la partie sud de la province. Du coup, il est devenu exigu, trop petit pour contenir la charge des activités qui s'y font. Difficile dans ce contexte actuel de développer certains services pertinents pour améliorer encore davantage le service. Certains matériels et équipements biomédicaux achetés n'ont jamais été installés faute de l'espace. Est pourtant indispensable dans le processus de la production du sang. Ainsi, il s'avère impérieux de recourir à un autre laboratoire d'une capacité beaucoup plus grande, spacieuse, adaptée en vue de décongestionner le premier et de nous permettre de mener à pic nos activités sans inquiétude.
Au Nord Kivu, la première phase expérimentale de la relance de la culture de blé dans les territoires de Lubero produit un rendement satisfaisant. Les responsables de la station de l'Ineran d'Ihira Vitumbiro parlent d'une tonne de semences de blé récoltées sur une étendue d'un demi hectare. Ils se félicitent de ce rendement qui est à la première phase de la relance de la culture de blé dans cette région. Ils notent que sur une vingtaine de variétés de blé expérimentées, deux se sont qualifiées et ont donné un bon rendement. L'heure est à la phase de multiplication à grande échelle, dit Alain Manzekele, expert en agri-écologie au micro de Denise Lukesso.
Depuis une année, nous avons relancé la culture du blé dans le territoire de Lubero. On était en train de faire la petite multiplication avec nos variétés de base et pré-base. Le résultat que nous avons eu était un résultat très satisfaisant parce que sur l'espace de 1,5 hectare, nous avons pu récolter 1000 kg de semences de blé. Alors, par rapport à ces semences, on a expérimenté, on a fait la multiplication à petite échelle de 20 variétés. Et parmi ces 20 variétés, il y a eu un certain nombre de variétés qui se sont qualifiées. Ils ont donné un rendement très élevé. Nous allons dire ici, par exemple, la variété Manzekele qui a un rendement de 7 tonnes à l'hectare dans les conditions naturelles. Tandis que la variété Lukeso, elle a donné 6,3 tonnes à l'hectare. Et vous allez effectivement vous poser la question pourquoi on a nommé une variété Lukeso. parce que c'est Lukeso qui fait la promotion de cette culture. Nous avons déjà semé au moins 10 hectares par rapport à notre 1000 kilos dans la multiplication à grande échelle. Et là, nous passons bien que le rendement estimatif, nous aurons autour de 20 tonnes de blé au mois de septembre parce que ça, la longévité, c'est 4 mois. Et nous osons croire que c'est à septembre que nous allons faire la récolte. Et là, nous aurons dans notre stock au moins 20 tonnes de semences.
Actualité Afrique Monde.
Au Soudan, le nombre de personnes ayant fui les combats dépasse les 500 000 et celui des déplacés dans le pays a atteint 2 millions, a révélé hier mardi le haut commissaire de l'ONU aux réfugiés ACR. De plus, 25 des 48 millions de Soudanais ne peuvent survivre sans aide humanitaire. Filippo Grandi a appelé à un élan de générosité envers ce pays à partir de Nairobi au Kenya à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. En Libye, l'organe de lutte contre l'immigration clandestine a envoyé hier mardi au Nigeria 165 migrants nigériens, dont des femmes et enfants. Ce, en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dans le cadre officiellement d'un retour volontaire, selon un responsable.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chargé de la coopération du CICR Sud Kivu et Maniema. Théo Bélessi parle de l'appui de la Croix-Rouge en collaboration avec le CICR dans la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Au Maniema, cette sensibilisation visait à amener les femmes notamment à dénoncer des cas de viol auprès des structures de référencement. Théo Bélessi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Théo Bélessi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi sensibiliser aujourd'hui les femmes sur les violences sexuelles basées sur le genre?
Oui, d'abord c'est parce que aujourd'hui au niveau international, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles, raison pour laquelle le CICR a saisi cette occasion pour appuyer la Croix de la RDC à faire les sensibilisations ici à Kindu. Donc la cible c'est toutes personnes, hommes, femmes de la province du Maniema qui sont concernés par cette sensibilisation.
Parlons de violences basées sur les genres. Il y a combien de types de violences?
Bon, il y en a plusieurs. Il y a notamment les violences sexuelles. Il y a aussi les violences domestiques. Les violences domestiques, ce sont des violences qui se font par les hommes avec leurs femmes. Par exemple, des comportements des hommes, n'est-ce pas, de menacer leurs femmes à la maison et qu'on sort. Il y a aussi des violences psychologiques. Avec la violence psychologique, ce sont des traumatismes que les hommes font qui traumatisent les femmes parce qu'ils sont femmes. Et puis, il y a aussi l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, ce sont tous les gestes, tout ce qui pousse l'homme ou la femme pour amener son partenaire à faire un rapport sexuel ou à l'exciter, à l'amener à faire un rapport sexuel.
En vous entendant parler, c'est comme si c'est seulement les femmes qui sont violées. Les hommes ne sont pas violés?
Bien sûr, c'est la question que nous avons posée aussi aujourd'hui aux participants. Les hommes sont aussi violés. Comment? Parce que si une femme, par exemple, fait des gestes qui attirent l'homme vers elle pour commettre des actes sexuels, là aussi c'est une violence. Il y a aussi des violences verbales de femmes envers les hommes, ce sont des violences. Donc tous ces paquets-là, ce sont des violences faites aux hommes.
Je vous comprends. Il y a certes les femmes et les hommes qui sont violés, mais surtout plus les femmes. Les victimes n'arrivent pas quand même à dénoncer. Comment faire pour le pousser, les aider à le faire?
Ah, bien sûr, c'est une très bonne question. Très souvent parce qu'une violence sexuelle, c'est un acte de honte pour la femme. C'est un acte qui humilie. Et puis, très souvent, les femmes qui connaissent les cas, par exemple, de violence sexuelle, très souvent, ils se taisent. Les femmes n'arrivent pas à dénoncer parce que ce sont des actes de honte. Mais toutefois, nous avons sensibilisé les participants et participantes. Nous leur avons montré certains sites de référencement ici dans la ville de Kindu. Il y a notamment Ouaki, il y a aussi Île Africa, il y a aussi la division commissaire et du genre, il y a aussi la fondation Femmes Plus. Donc ce sont des structures. Si les femmes sont violées, il faut dans les ou plus tard les 72 heures, il faut l'orienter déjà vers ces structures-là pour permettre à ce qu'ils puissent avoir des soins appropriés. Et les soins appropriés vont les empêcher, par exemple, si elle était violée, pour ne pas avoir une grossesse, par exemple, indésirable, pour avoir, par exemple, une maladie. Et puis, s'il est déjà pris en charge par une structure, ça va lui prévenir déjà de toutes ces situations. Et il y a aussi, très souvent, quand les femmes sont violées dans nos quartiers, dans nos familles, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à résoudre le problème à l'amiable. Et là, pendant la séance, les mamans nous ont dit que non, quelquefois, les bourreaux de ces filles-là ou de ces femmes-là, on les arrête quelques temps après, on les relâche, on les voit dans la cité en train de circuler. Raison pour laquelle là, on a demandé à ce que, quand la femme a des difficultés, a des problèmes, ils peuvent contacter certaines structures qui s'occupent de faire justice aux victimes. Il y a par exemple la prise en charge juridique, il y a par exemple AFEJICO qui est ici à Kindu. Donc si on veut poursuivre les bourreaux au niveau de la justice, on peut se présenter auprès de cette structure-là qui va les orienter, les conseiller pour voir comment on peut poursuivre les bourreaux au niveau de la justice.
Maintenant, selon vous, que faire alors pour mettre fin aux violences sexuelles basées sur les genres?
La première chose, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, on doit commencer la sensibilisation à partir de la famille pour permettre à ce que tout le monde sache déjà que on doit mettre fin aux violences basées sur les genres. C'est-à-dire, on doit éviter de violer toutes ces personnes féminines parce que les violences qu'on fait sur la femme, ça l'humilie et ça peut même créer des problèmes jusqu'au niveau des foyers, si c'est une femme mariée, ça peut poser énormément de problèmes.
Monsieur Théo Bélessi, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
C'était notre invité, le chargé de la coopération du CICR Sud-Kivu et Maniema, Théo Bélessi, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.